Le titre du partage de ce matin, c'est « Courir », parce que la Bible nous y engage, nous exhorte à courir, pas à marcher, à flâner, à regarder ailleurs, mais à courir pour un but, pour gagner, parce que courir pour courir, ça ne servirait à rien, mais courir pour gagner. Et vous allez voir avec un seul verset, tout ce que on peut dire, parce que la Bible, elle est riche, c'est dans, on connaît ce passage-là, Hébreux, chapitre 12, verset 1er. Hébreux 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et donc c'est le thème de ce matin, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen et amen. On sait parce que on l'a appris, on nous l'a inculqué, tous les bienfaits de la course à pied. Quand on fait de la course à pied, il y a un bienfait dans le corps. Alors je vais le dire sans aucune voilà, vous avez devant vous un ancien champion de course à pied. Alors certes, je vous le concède, ça se voit plus trop, mais c'est la réalité. C'est la réalité des choses. Et donc courir, donc à un moment donné, j'aimais ça avec un but. Et puis ça permet, quand on court, la course à pied, ça permet d'améliorer la condition physique. Et c'est pour ça qu'il y a des analogies dans la parole de Dieu. Là, ici, nous sommes exhortés à courir. Mais courir, mais pourquoi? Dans quel but? Dans quel sens? Afin d'améliorer notre condition physique, être résistant, afin d'arriver en vainqueur et franchir cette ligne d'arrivée en vainqueur. Alléluia. C'est même, ça fait du bien à tous les organes indispensables à la vie, comme le cœur, le poumon, les artères ou encore le foie. Donc, quand on fait de l'exercice, ça fait du bien. Alors, en préparant ce message, je me suis dit, va falloir s'y remettre un peu, parce que sinon, on se laisse vite avoir. Et ces organes vitaux sont au meilleur de leur forme et l'espérance de vie, elle est prolongée. D'ailleurs, on nous dit, manger, bouger. Et puis faites de l'exercice. Mais c'est également pareil dans la parole de Dieu, où ici nous sommes exhortés à courir. À cause de quoi? À cause de l'environnement. Parce que nous avons lu, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Si ce matin, je vous avais dit, quel est le chapitre qui parle de la foi? Alors, les prédicateurs auraient spontanément dit Hébreux 11. Et en fait, Hébreux 12, alors ça c'est une grande révélation ce matin, vient juste après. Hébreux 11, et donc il dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il y a ces témoins qui sont là à cause de l'environnement, nous devons courir, parce que certains hommes, certaines femmes, il y a même des personnes dans toute la liste de ces noms, à la fin, il y a quelques anonymes qui sont là. Et moi j'aime beaucoup ça, parce que il y a, comme on dirait, les têtes d'affiche, et puis il y a ceux où même leur nom, leur prénom ne sont pas stipulés, mais ils ont la même importance devant le Seigneur. Et à cause de l'environnement, à cause de tous ces témoins, alors on veut également persévérer parce que eux aussi, ils ont été soumis, comme nous, aux tentations, aux difficultés, à la persécution, et ils ont tenu bon, ils ont franchi la ligne d'arrivée en vainqueur. Et donc, nous sommes exhortés ce matin à courir encore et toujours. Donc, ce mot témoin, donc c'est un terme qui signifie un témoin juridique dans un tribunal. C'est ce que veut dire, témoigner. Quand on témoigne dans un tribunal, on est appelé, on a vu quelque chose, nous sommes appelés à témoigner. Témoin, c'est également quelqu'un qui raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a connu et ce qu'il a expérimenté. En fait, ça ressemble à chacun d'entre nous. Nous sommes des témoins. Parce que le Seigneur a agi dans nos vies. Et comme il a agi dans nos vies, on veut dire à des personnes qui traversent des moments difficiles, hey, vous savez pas quoi? Je connais quelqu'un qui peut agir dans votre vie. Vous savez pourquoi? Il l'a fait pour moi. Là, vous me voyez comme ça, mais ça n'a jamais été comme ça. C'est qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose. On ne naît pas chrétien, On le devient. Et si on le devient, c'est parce qu'il y a eu une rencontre avec la plus grande des personnes, c'est avec notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, et Dieu lui-même qui s'est révélé au travers de Jésus. C'est ce qu'on a vu hier avec les jeunes, hein. On a passé un bon moment hier avec les jeunes, où on a parlé de théologie, de christologie. L'œuvre de Christ est extraordinaire, alléluia. Oui, un témoin, c'est quelqu'un qui a vu. Nous avons vu le Seigneur à l'œuvre dans nos vies. C'est quelqu'un qui a connu, il y a cette relation avec le Seigneur et qui l'a expérimenté, parce que les choses théoriques ne changeront rien dans nos vies, c'est de la pratique qu'on a besoin. On a besoin, évidemment, hein, les deux sont complémentaires, hein, mais il ne faut pas s'arrêter simplement qu'à de la théorie. Un témoin, c'est également le mot employé pour témoin, c'est une personne qui a été martyrisée, qui a été tuée pour sa foi en Christ. Et on se souvient au début de la naissance de l'Église, comment les chrétiens mouraient. On l'a vu, vous rappelez, il y a quelques dimanches, où certains mouraient en chantant des cantiques. Waouh. Si ça, c'est pas la grâce de Dieu. Parce que quand vous voyez la bête féroce arriver avec des longues dents, une force, une puissance arriver vers vous, et que c'est, vous savez là que c'est vos dernières secondes ici-bas sur terre, je sais pas, hein, si spontanément, on va chanter « Quand Jésus est devenu ». C'est la réalité des choses. Et eux, pourtant, ils le faisaient. Alors, c'était pas des surhommes. Parce que dans l'Épître de Jacques, il est dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Des fois, on aurait tendance à diviniser les hommes. Surtout pas. C'est des hommes de la même nature que nous, mais qui ont vécu une expérience et qui nous montrent, finalement, sont des exemples pour aller plus loin avec le Seigneur. Et quand, dans cette liste concernant la foi, vous voyez donc toute cette liste, à un moment donné, il y a Abel qui est là. Il est parlé d'Abel et de son offrande. Hein, on l'avait vu aussi il y a quelques dimanches, que lui, Abel, il va offrir une offrande qui était plus excellente. Donc Genèse 4, verset 3, « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. » Je parle d'Abel parce que, évidemment, hein, les deux histoires vont ensemble, hein, donc Caïn et Abel. Et en fait, on s'aperçoit que pourquoi l'offrande d'Abel a été acceptée par le Seigneur et pas celle de Caïn, je vous l'avais dit, hein, la dernière fois également, c'est parce qu'il est dit que dans ces fruits de la terre, le mot pour « fruit de la terre », dans l'hébreu, c'est « miketz yamim », qui veut dire « des fruits de fin de saison ». C'était les fruits qui étaient gâtés, même qui étaient pourris, et c'est ce qu'il a offert au Seigneur, Caïn. Et donc, évidemment, que à ce prix-là, le Seigneur n'accepte pas son offrande. Il va accepter plutôt l'offrande d'Abel. C'était une offrande donc volontaire, son agneau, d'un agneau qu'il avait de son troupeau, et il l'a donné au Seigneur. Et son offrande donc était plus excellente. Et jusqu'à ce que je comprenne, que je vois dans l'original que c'était des fruits de fin des saisons, moi-même j'étais perturbé un peu par cette histoire. Je disais mais quand même, il a offert au Seigneur des fruits. Hein. Quand même, il a fait cet effort. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que si on donne pas la meilleure part au Seigneur, c'est comme si on donnait au Seigneur les fruits que l'on veut pas. Et ça représente peut-être le temps que j'investis, le peu de temps qu'il peut me rester pour m'investir dans le service de Dieu. Le peu de temps qui me reste pour prier. Le peu de temps qu'il me reste pour louer le Seigneur. Alors que c'est dans l'autre sens que ça doit marcher. Si on place le Seigneur premièrement dans nos vies, alors l'offrande volontaire, elle sera agréée par le Seigneur et de là découlera toutes les autres bénédictions. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Si j'avais demandé qui veut avoir les choses par-dessus tout, ben tous, hein, nous, hein, les deux pieds, les deux mains, les deux pieds, on veut, alors on doit mettre le Seigneur, donc premièrement, donc à la première place, surtout au centre de nos vies. Oui, le résultat, c'est que Dieu approuvant ses offrandes. Il y a également, dans cette liste, évidemment, hein, le père de la foi, c'est Abraham. Abraham, lui, à un moment donné, donc, Et comme on est environné de cette nuit de témoins qui, ce matin, nous témoignent de ce que eux ont vécu. Dans Hébreux chapitre 11, verset 8, il est dit ceci, que Abraham, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. En fait, c'est la marche avec chacun d'entre nous. Et nous avons quand même cet avantage parce que nous savons où nous allons. Nous savons que nous allons au ciel. Que le Seigneur soit qu'on ferme les yeux ici-bas sur terre, soit qu'il revienne dans une nuée chercher son Église. Nous savons où nous allons. Lui, le Seigneur, l'interpelle. Il obéit et il s'en va pour aller où ? Ben, il savait pas, mais en tout cas, l'obéissance. Donc, on voit ici ces deux exemples, j'en ai pris que deux, deux exemples, donc, de ces témoins. Nous sommes environnés de ces témoins. Et nous devons nous inspirer des réactions, donc, d'obéissance d'Abraham, également de sacrifice, d'Abel. Et l'application pour chacun d'entre nous, c'est, quand on fait cela, alors, on est encouragé par le Seigneur à s'accrocher encore et toujours, à continuer de courir. Mais ça ne s'arrête pas, hein. On l'a lu ce verset de Hébreux 12, donc on est environné par une nuée de témoins, mais nous devons faire quelque chose de tellement important que souvent nous oublions, c'est de rejeter tout fardeau. Eh bien, de courir, donc avec persévérance, et de rejeter tout fardeau. Les fardeaux ne sont pas forcément du péché. Je remarque qu'il y a ce verbe qui dit de rejeter. Et même, c'est au pluriel, rejetons tout fardeau. Et quand on rejette, c'est un acte volontaire. C'est de ma propre initiative où je décide de rejeter certains fardeaux qui sont en train de s'accumuler sur ma vie. Et vous l'avez expérimenté, hein, comme moi, c'est que au fur et à mesure de notre marche, on est en train de s'alourdir de fardeaux qui sont tellement inutiles, avec cette conséquence que quand on va marcher, on va aller plus loin, alors la marche va être lourde. Elle va être difficile. Mais ça, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que régulièrement, nous devons venir dans la présence du Seigneur et rejeter tous les fardeaux. Rejeter, c'est un acte volontaire de notre part. La raison, c'est de courir aussi vite. C'est se débarrasser de ce qui est inutile et gênant. Un jour, je regardais quelqu'un, vous savez que dans la région de Carpentras, il y a le Mont Ventoux. Le Mont Ventoux, je ne sais pas si vous avez vu, pour les spécialistes donc du Tour de France, cet été, il va repasser encore par le Mont Ventoux. Et puis, un jour, alors là-bas, c'est, il l'appelle comme ça, le paradis des cyclistes. Si vous faites pas attention, hein, ça part dans tous les sens, il y a des expéditions, il y a des étrangers qui viennent, donc des bus entiers pour gravir donc le Mont Ventoux. Alors j'aimerais vous dire que moi j'ai gravi le Mont Ventoux, hein. Oui, en voiture. Petit détail important. Eh oui. Alors, un jour j'avais vu quelqu'un qui se préparait à monter le Mont Ventoux. Alors il avait un vélo qui était pas tout à fait moderne, hein, dernier cri. Et puis, il était en jean et en chaussures de ville. Je me suis dit, il n'est pas quand même équipé pour cette course, parce que c'est l'une des courses les plus difficiles en cyclisme. Cette montée, je crois que c'est 9 ou 11 kilomètres, je ne sais plus, à 21% de moyenne. Donc, il faut pédaler. Tout ça pour dire quoi ? Que tout ce qui est gênant, et si on n'a pas la bonne tenue, alors, il y a des choses qui vont nous gêner dans notre vie. Si on n'a pas le bon regard, la bonne direction, il y a des choses qui vont alourdir. Alors, cet homme, alors aussi paradoxal, hein, alors du coup, ça coïncide plus avec l'exemple que je suis en train de vous donner. Mais quand moi, je suis arrivé en haut en voiture, lui, il est arrivé, hein, mais au prix d'efforts, terrible. Alors, je ne sais pas si c'était un pari ou un gage qu'on lui avait donné, je sais pas. Mais en tout cas, il a fait tout ça pour vous dire qu'il y a des choses dans nos vies qui nous gênent et qu'on doit absolument se débarrasser. C'est pour ça qu'il est dit de rejeter les fardeaux. Et les fardeaux, pour pouvoir les rejeter, ce qui nous encombre, ce qui est la charge, ce qui interfère sur le chemin, nous devons les identifier. Ça semble tellement logique. On doit identifier les fardeaux. C'est quoi les fardeaux ? Ben, les fardeaux, moi j'en ai pris quelques-uns, hein. On pourrait le rajouter encore dans la liste. Peut-être le bien-être matériel. De poursuivre que ça. Si c'est ça notre raison de vivre, on va prendre un fardeau et ça va gêner notre marche. C'est sûr que quand on donne notre vie au Seigneur, il prend soin de nous. Physiquement, spirituellement et matériellement. Certains peuvent l'attester aussi. Ben oui, hein, c'est la vérité. Le bien-être matériel, c'est-à-dire être absorbé par notre maison, notre voiture, nos projets de retraite, puis toutes ces choses qui viennent là, nous accaparer. Il y a des choses qui sont pas, c'est pas forcément mal, mais c'est de nous focaliser que sur ça. C'est là où il y a ce souci. Donc, identifier les fardeaux quand il y a certaines passions qui sont là et qui prennent la place du Seigneur. Nous, ce que nous voulons, c'est être passionnés par le Seigneur, passionnés par son œuvre, passionnés par tout ce qu'il a accompli, passionnés par l'Église. Je ne sais pas si vous êtes passionnés par l'Église. Être passionné par les uns et les autres, aimer servir, et parce que nous sommes redevables au Seigneur. Hein. D'ailleurs, on ne pourra jamais payer nous notre dette. Elle a été payée. Mais quand on a réalisé tout ça, mais c'est un plaisir d'avoir été sélectionné dans la plus grande des équipes pour servir le Seigneur. Alléluia. Donc quand il y a des passions, certains peuvent passer énormément de temps en regardant des films, énormément de temps sur Internet, le sport ou les jeux. Aujourd'hui, certains font des nuits blanches en train de jouer aux jeux. Et puis, certains spécialistes par rapport aux jeux, ils se sont aperçus d'un phénomène. C'est-à-dire que les jeunes gens, quand ils commencent à jouer au jeu, ben, il y a comme ce syndrome d'enfermement, à passer des nuits à jouer, et puis ça va les empêcher de se développer. Il y a même une nouvelle catégorie qui a été nommée les adolescents. C'est-à-dire qu'ils sont entre le monde adulte et ils sont pas sortis encore de l'adolescence. Il y a encore des personnes, 35, 40 ans, qui jouent au jeu tout le week-end, enfermées dans une pièce, et qui ne s'occupent plus du monde dans lequel ils vivent. Vous voyez le dysfonctionnement? Ça, ce sont des fardeaux. Les fardeaux également, quand on est préoccupé par ce que les autres pensent de nous. L'apparence physique. D'ailleurs, on l'a remarqué sur les réseaux sociaux, c'est rare qu'on prenne une photo de profil quand on se lève le matin. Vous l'avez remarqué, hein, toujours bien apprêté. Il y a même des fois, il y a même aujourd'hui des filtres. Alors, il y a des filtres aujourd'hui, hein, pour embellir. Parce qu'en fait, les regards, ils sont fixés sur le paraître, sur le physique. Alors que le Seigneur, lui, il regarde au cœur. Alléluia. Et une chose certaine, c'est que quand le Seigneur il regarde au cœur, vous êtes tous beaux. Alors certains sont en train de douter, je vous promets, vous êtes beaux. Alléluia. Alors évidemment, hein, spirituellement, mais aussi physiquement. Alléluia. Chacun, hein, voilà. Hein. Donc, quand on est préoccupé par ces choses-là, c'est quelque chose de terrible. Les fardeaux, on aurait pu rajouter des inquiétudes. On aurait pu rajouter les soucis, les craintes, la peur ou les peurs du lendemain. Ce qui va arriver, ça ce sont des fardeaux inutiles qui vont nous gêner à un moment donné dans notre marche. Toutes ces choses peuvent devenir une nuisance dans notre course au service de Dieu. Ce sont autant de fardeaux que Dieu nous invite à déposer à ses pieds, afin d'en être affranchis. 1 Pierre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce passage-là, il est vraiment encourageant. Hein. Mais il y a quand même une part, vous vous rappelez, hein, régulièrement je le dis, hein, qu'il y a une part qui nous incombe. Quelle est notre part? De se décharger. C'est pas le Seigneur lui-même, hein, dans un monde où on veut que les autres fassent à notre place, c'est pas le Seigneur qui va enlever le fardeau. C'est à nous de venir, notre responsabilité, de prendre la résolution de venir dans sa présence. Pourquoi faire? pour se décharger, enlever de ma propre initiative ce fardeau-là. Pour ça, il faut des résolutions. Pas les fameuses résolutions de la première semaine de janvier. Et on l'a tous fait, ça. Hein. À partir de cette année, ça va changer. Hein. Plus de sport, moins d'ici, plus de cela. Et puis, on s'aperçoit que quelques semaines après, on se dit, bon, à quoi bon Voilà, ces choses-là, elles arrivent. Mais nous, notre responsabilité, c'est de nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Il y a un fardeau quand même que l'on doit prendre, absolument. C'est le fardeau du Seigneur, qui est doux, qui est léger. Hein, rappelez-vous, hein, Matthieu 11, 29, « Car mon fardeau, il est doux et léger. » Le fardeau du Seigneur, c'est quoi? C'est le fardeau pour les âmes, le fardeau pour l'autre. Voilà, de pas me focaliser sur l'individualisme. Et moi, et moi, et moi. Et puis s'arrêter un moment et dire, et l'autre, de quoi il a besoin? Est-ce que je peux l'aider? Est-ce que ce n'est pas que matériellement, hein, c'est également spirituellement, dans la prière, je veux prier pour lui, voilà, s'engager, se préoccuper de l'autre. Et ça, c'est, on veut être cette église-là, hein, qui accueille les personnes qui viennent s'accueillir les uns et les autres. Ça aussi, c'est spirituel, hein. Je vous l'avais dit aussi. Il m'est arrivé dans une église, hein, que je visitais, d'avoir passé tout le culte sans que personne vienne me saluer. Je trouvais ça d'une tristesse. Après, il a fallu qu'on en parle avec le pasteur. Voilà, hein. Faut aller au-delà. Mais c'est pas, je suis pas comme ça. En général, vous avez remarqué ce qu'on fait, hein. On passe le pas de la porte, puis on va direct se focaliser et on va aller voir directement les personnes avec qui on a le plus d'affinité. Alors, il y a rien de mal à ça, hein. Il y a rien de mal. Mais préoccupons-nous aussi de celui qui est là, à côté. Alléluia. Donc, c'est ça, hein, le fardeau du Seigneur. On continue dans ce verset où il est dit, donc, de rejeter tout fardeau et quoi encore? Et le péché. Tiens. Le péché qui est là, c'est quoi le péché? Le péché, c'est ce qui est mal, péché, c'est une offense, péché, c'est la violation de la loi divine, c'est entouré avec habileté, c'est-à-dire assiégé, c'est ça, hein, le péché, qui va s'identifier comme des choses que l'on fait. Le péché, il nous enveloppe, comme un drap, sur chacun d'entre nous, et il nous enveloppe facilement. Aisément. À cause de quoi? À cause de notre héritage, de cette nature que l'on hérite. Mais quand on vient au Seigneur, cette nature, elle est changée. Et désormais, nous devenons enfants de Dieu. C'est ce que a partagé tout à l'heure Pascal dans le passage de la Sainte Cène. Donc, rejeter le fardeau et rejeter le péché. Quand on pense à péché, j'en ai énuméré voilà quelques-uns, hein. Donc ce péché qu'il a, une offense, violation de la loi divine, toutes ces choses, elles sont réelles. Des fois, on oublie un petit détail, c'est le péché oublié. Regardez le péché oublié, Jacques 4, verset 17. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Si à un moment donné, donc, on sait faire le bien, et que pour des raisons multiples, pour des excuses, mais j'ai pas le temps, c'est pas ceci, pas cela, on ne le fait pas, le Seigneur, lui, il dit, dans sa parole, qu'il commet un péché. Le péché ne doit plus avoir sa place dans notre vie. Tolérance, zéro. Intransigeance. Au cours de mon service, auprès du Seigneur, je me suis aperçu que des fois, dans la vie de certains chrétiens, il y a une certaine tolérance au péché. Mais ça, c'est pas grave. Ça, le Seigneur, il va s'en accommoder. Qui vous l'a dit que c'était pas grave? Qui a dit que c'était pas grave? C'est nous. Posons la question à Dieu. Et puis, si on a un peu d'honnêteté, le Seigneur, qui nous a donné son Saint-Esprit pour nous conduire jusqu'à toute la vérité, il va nous révéler les choses qui ne vont pas dans nos vies. Et c'est à nous-mêmes, à un moment donné, de réformer nos vies. Donc, tolérance zéro quant au péché, parce que nous en avons été libérés à la croix du calvaire. Alléluia. Ce matin, tous ceux et celles qui ont partagé le pain et le vin, nous sommes au bénéfice de la victoire de Christ sur le péché. Alléluia. Et on a la capacité de pouvoir résister au péché. C'est ça la liberté. La liberté, c'est de pouvoir dire non à certaines choses. C'est-à-dire, mais en fait, je n'ai pas d'utilité parce que le Seigneur m'a libéré donc du péché. Alors quand on parle de, on est exhorté de courir, de rejeter des fardeaux, de rejeter le péché, mais on doit courir d'une certaine manière. Pas courir comme un emporte-pièce, mais courir comment ? Avec persévérance. Courir avec persévérance. La manière de courir est tellement importante. Courons, exprimant une action continuelle. Toujours, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je dois continuer de courir. Vous connaissez tous, on connaît tous des personnes qui ont bien commencé à courir, qui se sont essoufflées à un moment donné parce qu'ils n'étaient pas équipés. Et puis, petit à petit, ils ont laissé des failles dans leur vie, ils ne se sont pas préoccupés. Puis aujourd'hui, ils sont loin de Dieu. Et ça, c'est terrible. Nous devons courir avec persévérance. Le trajet de notre course a été décidé par le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous devons suivre le Seigneur plus que jamais. Pourquoi ? Parce que lui, il connaît le chemin et la destination. On doit courir avec persévérance, c'est-à-dire endurance. La persévérance volontaire. Quand on va dans l'étymologie du mot persévérance, dans le grec, on s'aperçoit que c'est courir avec persévérance volontaire et agressive. C'est pas l'agressivité contre mon frère ou ma sœur. C'est l'agressivité contre ce naturel qui est là, où on remet à plus tard. C'est pas grave, on verra. Une certaine agressivité, d'ailleurs, il est dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ce sont les violents. Alors les violents, hein, faut pas que ce soit mal compris. Hein. C'est de cette violence-là dont je vous parle, hein, cette violence contre moi, contre le péché, et on doit courir avec persévérance. Et le secret pour y arriver, il n'y en a qu'un finalement, c'est ayant, et ça c'était le verset 2 de Hébreux 12, ayant les regards fixés sur Jésus. Ayant les regards fixés sur Jésus, il est possible de bien terminer la course. Ce matin, que nous puissions le comprendre, c'est vers lui qu'il faut regarder pour recevoir sa force. C'est percevoir le Seigneur dans tout ce que nous vivons et dire « Seigneur, je veux courir en persévérant dans peut-être les moments d'épreuve et de difficultés qui vont nous permettre finalement, qui vont permettre au Seigneur d'accomplir son œuvre en nous. » Nous voulons courir avec persévérance. Il est dit « dans la carrière qui nous est ouverte ». Encore une fois, définition du mot « carrière », n'est-ce pas la carrière professionnelle, hein. C'est la trajectoire. La trajectoire qui nous a été ouverte, ce terme-là, quand on va dans le grec, c'est ogona, qui est un terme de l'athlétisme, d'où nous vient le terme agonie. Faut courir avec agonie. C'est dans ce sens-là. Hein. Il est généralement employé pour parler d'une piste qui a été aménagée pour une course. Et là, on s'aperçoit que dans cette course, le Seigneur a aménagé une piste afin que nous puissions courir de la bonne manière. La détermination à courir signifie que l'énergie nouvelle que nous recevons d'une source extérieure pour continuer de courir. Et nous, notre source, elle est extérieure parce que le Seigneur vient, évidemment, dans ce que nous pouvons voir, mais elle est également intérieure. C'est dans cette relation avec le grand Dieu de l'univers où il va mettre ces choses au fond de nos cœurs. Pour conclure, je pense que les prochains versets vont nous encourager à courir, à aller dans la direction que le Seigneur nous demande. Regardez Ésaïe 40, verset 30 et 31. Ésaïe 40, verset 30 et 31. La carrière nous est ouverte, c'est à nous à pouvoir y rentrer. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Regardez le contraste, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Ça, encore une fois, c'est surnaturel. Ici, il y a cette comparaison. Hein. Les adolescents, ils se fatiguent. Alors que les adolescents, ils sont dans la force de l'âge. C'est là le contraste. C'est pour souligner le contraste. Qui, normalement, devait être plein de force, plein de vigueur. Ils sont en train de se fatiguer. Et ils se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient, là, ici, il est parlé de confiance, de foi. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, qu'est-ce qu'ils font? Ils renouvellent leur force. La force, elle est renouvelée. Alléluia. Et quand la force est renouvelée, alors ils prennent le vol comme les aigles. La dernière fois, j'ai dit que vous étiez des buffles. Ce matin, c'est des aigles. Alors, c'est pas 30 millions d'amis. Mais en tout cas, c'est la réalité. C'est ces images-là. Un jour aussi, peut-être, on pourra partager sur les caractéristiques de l'aigle. Et vous verrez que quand le Seigneur, il prend une image et qu'il la met, qu'il inspire des hommes pour mettre dans sa parole, c'est que derrière, il y a toute une perspective là qui est encourageante pour nos vies. Alléluia. Alors, nous voulons renouveler nos forces, prendre le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Regardez là, encore une fois, il y a quelque chose qui est surnaturel. En général, quand on court, on se lasse, on se fatigue. C'est la normalité des choses. Mais quand on est renouvelé constamment par le Seigneur, alléluia, alors on ne se fatigue pas et on atteint l'objectif. Alléluia. Et ça, à un moment donné, et je crois, oui, c'est le dernier verset, les deux derniers versets de la matinée, il y a un homme qui a voulu le dire. Il a dit, mais il donne son témoignage. C'est 2 Timothée 4, versets 7 et 8. Il arrive à la fin de sa vie. Et vous savez, quand on sent que notre départ approche, je pense, alors j'ai accompagné des personnes en fin de vie, on ne s'embarrasse pas de futilité. On ne parle pas de la pluie du beau temps. On parle des choses concrètes, réelles. Et donc, il sent que son départ approche, et puis il va faire cette déclaration extraordinaire. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Puisqu'il a fait cela, il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement, c'est-à-dire à vous. En fait, c'est ça. Ce qu'il est en train de dire. Hein. Ici, il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Il y a une course à achever. Elle commence le jour où je donne ma vie, et elle finit quand je ferme mes yeux ici-bas ou quand si le Seigneur revient. Alors nous voulons nous souvenir d'une chose, c'est que un jour, le chronomètre s'arrêtera, le chronomètre de notre vie. Est-ce qu'on pourra dire, comme l'apôtre Paul, on pourra dire « j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi ». Si on pourra le dire, alors on aura franchi la ligne d'arrivée en vainqueur. Et une couronne nous sera réservée, alléluia, à chacun d'entre nous. Vous la voyez l'image là? Chacun d'entre vous en train de finir la course. Et dès que la ligne d'arrivée est franchie, le Seigneur nous attend pour nous donner la couronne. Alors en perspective de ces moments, nous voulons continuer de courir. Nous voulons continuer à aller de l'avant. Et j'aimerais simplement rappeler à quelqu'un qui peut-être s'était arrêté dans la course. Reviens dans la course. Revenez dans la course. Ne prenez pas le risque d'être perdu pour l'éternité. Restez dans la course et puis surtout, terminez la course. Alléluia, que le Seigneur soit béni. On prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci encore pour toutes tes grâces. Tout ce que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, c'est tellement bon et merveilleux. Tu nous exhortes ce matin à courir, mais pas de n'importe quelle manière. Tout d'abord, nous débarrasser de certains fardeaux qui sont là, Seigneur. Et que nous puissions courir avec persévérance, avec les regards fixés sur toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, tous ceux et celles qui sont en train de courir, qu'il puisse persévérer, aller de l'avant, encore et toujours, ne pas se décourager, Seigneur. Et pour ceux et celles, Seigneur, qui ont abandonné la course et qui sont là ce matin, Seigneur, qu'ils puissent revenir dans la course. Que ce matin, tu puisses trouver le chemin de leur cœur. Seigneur, tu m'as inspiré à partager ce message pour que tu puisses agir, peut-être même avertir quelqu'un de revenir dans la course absolument. C'est tellement important. Seigneur, nous te bénissons parce que tu veux le meilleur pour nous. Cette couronne, elle attend chacun d'entre nous. Je veux te remercier, Seigneur mon Dieu, en perspective de ces moments que je vais vivre, que nous allons vivre. Nous te bénissons, nous te glorifions, notre Dieu, et nous te disons à ton nom seul, soit toute la gloire. Merci Jésus. Amen et amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. À lui seul, nous donnons toute la gloire. On le répète régulièrement, hein. Gardez vraiment dans vos cœurs parce que il y a un ennemi qui est là, qui essaie de voler tout ce que le Seigneur dépose dans nos cœurs, mais gardez ces choses afin que dans les moments difficiles de se les rappeler. Alléluia. Amen.